podcast.com. Essaye ça.
Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs les YEL. Vous êtes présentement à Terrain Basique, le podcast le plus québécois de tous les podcasts francophones de l'univers, j'imagine.
Sur Magic the Gathering.
Magic the Gathering. Mon nom est Andy Jacques, en remplacement de Gorg Noua, je veux dire Tommy Godet, je suis désolé.
Oh, la boulette.
OK, on arrête tout. Je suis donc ici en remplacement de Tommy Godet. Par contre, l'équipe reste la même. On commence évidemment avec Jason, le Sphinx de Terrain Basique. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Jason?
Écoute, en deuxième partie, on va continuer notre cycle de rats.
OK.
Et aujourd'hui, on rentre dans le Stronghold, la forteresse de Volrat. Donc, l'hiver 98.
Excellent. Mais avant ça, en première partie, on a Emmanuel qui va nous amener un petit topo sur quelque chose qui m'excite vraiment beaucoup.
Yes, sir. Un peu d'actualité. Aujourd'hui, il y avait le premier événement de reveal du nouveau set de Unfinity, le nouveau set de Joke de Magic. On va regarder ça ensemble.
Excellent. Et on a avec nous Jonathan Gauthier qui s'occupe encore une fois, je pense que ça va devenir pas mal son métier de Terrain Basique, qui s'occupe de la trame sonore que vous entendez dans vos oreilles en ce moment. Peux-tu nous en parler un peu, Jonathan?
All right. Ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est une vieille trame sonore d'un film japonais. Je pense que c'est The Most Dangerous Game, vieux film de 1978. J'adore ce que Yuji Ono fait. Il est plus connu pour avoir fait les trames sonores du dessin animé Lupin Third, Lupin le troisième du nom. Ça ressemble un peu à ce que Chet Baker faisait dans les années 70-80, puis c'est juste avant la mode City Pop au Japon. Fait que vous avez tout compris ce que je viens de dire. Écoutez le film, c'est bon.
Et nous, faites vos recherches.
C'est des mots qui existent.
C'est des mots qui existent.
Excellent. Donc, écoute, on va se lancer dans ce gras d'informations.
Oui, alors oui, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez voir plus en détail, là, vous pourrez aller voir la vidéo qui a tourné. Là, ça finit un peu en queue de poisson, là, je pense, à la fin, le Twitch a déconnecté. Mais comme quoi, ça arrive à tout le monde. Il présentait le nouveau Unfinity. Il y a eu certains retards là, dans la production. On le sait, ça a été, je pense que c'était supposé sortir avant l'été. Mais il y a eu des retards à cause de la conception du set. On va voir pourquoi. Tout de suite, là, après cette merveilleuse image, dans le fond, la thématique, là, on en a déjà un peu parlé, c'est une espèce de carnaval intergalactique.
Interplanétaire, comme plan.
Écoute, de partout. Fait qu'ils se gâtent là sur la. Ils vont se gâter pas mal sur la thématique et du carnaval, les clowns, les jeux, les fêtes foraines, tout ça. Et sur la thématique, l'espace, les extraterrestres, les robots, tout ça.
Je remarque aussi, Eman, que c'est aussi une thématique. Parce que vu que c'est comme le carnaval du multivers, il y a une représentation de pas mal tous les vieux sets sous forme de cirque.
Absolument.
Comme on voit là, c'est le Urza Funhouse.
Ouais.
Je pense que ça va être une thématique très artefact.
Bien et où on voit comme voyons.
J'ai vu d'autres sets aussi être représentés. Ouais, on voit Urza,
Karn,
mécanique. Oui, le Weatherlight à gauche.
C'est ça. Il y a des cartes de monde déguisées en Planeswalker qu'on connaît.
Il y a des cosplayers.
Oui, il y a
littéralement une carte cosplay.
Ouais, puis ils ont engagé du monde de Loading Ready Run et d'autres personnes reconnues pour faire les flavor text puis nommer les cartes.
Ah, John, puis
okay. Ouais, fait qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires.
Je suis vraiment excité.
Oui, pour moi, ça va être le fun. On en avait glissé un mot, une nouvelle mécanique qui sort dans le set que certains ont dit que ça allait tuer Magic. Oui, oui. Je ne mâche pas mes mots.
Oui, mais c'est pas standard. Ça.
Vous l'aurez appris ici. Ah non, tu penses? C'est parce que ça va être legacy,
Black Border.
Légal. On dit plus Black Border et Silver Border. Donc on dit Acorn Sticker ou pas Acorn Sticker. Ils ont remplacé les Silver Border par un petit Acorn Sticker qui remplace au milieu de la carte en bas là, l'espèce de stamp là, qu'il y a d'habitude sur les cartes
Magic,
rares, là, sur les cartes Magic. C'est, il va être maintenant en forme de Acorn, là, de gland. pour indiquer que la carte n'est pas légale dans les, okay. dans les formats éternels, sauf que ça veut dire que celles qui n'ont pas ce petit sticker-là le sont. Ils ont fait ça pour parce qu'ils trouvaient plate que dès qu'une carte était silver bordered, était comme...
Rien à faire avec.
Ben, le monde la discartait automatiquement comme pas du vrai Magic. Bon, le débat se tient à savoir si c'est du vrai Magic ou pas, ou si ça vaut la peine de tenir ces distinctions-là. Je m'embarquerai pas là-dedans, il y a des endroits pour le faire sur Internet. Donc,
oui, je vais le faire un jour, dans un futur épisode, là, parce que moi, je suis un partisan d'avoir ça dans les vrais, parce que c'est le fun.
Moi, juste une petite question.
Vous n'aurez pas de problème à voir ça en tournoi.
Comme tu viens de le dire, l'hologramme en bas de la carte, c'est sur les rares et les mythiques. Fait que par définition, tout ce qui est uncommon, common.
Moins qu'il y ait un acorn parce qu'ils vont.
Non, mais attends un peu, c'est ça l'acorn qu'on voit en bas à gauche?
Non, ça, c'est le. Ça ici, non, ça,
ça a l'air d'un bon plug.
Non, c'est le petit bout de pinceau qui est à côté de chaque nom d'artiste sur chaque carte, Andy.
C'est bon. Mais ça a l'air d'un bot plug. Ouais.
Donc, okay. la mécanique qui va tuer Magic, c'est les stickers. Ben oui, ça prenait des collants pour tuer Magic. Et c'est une des raisons qu'ils ont donné pour lequel il y a eu un retard sur le set. C'est que la compagnie qui avait engagé pour faire la colle de leur collant a fait faillite ou a fermé, whatever. Il y a eu du retard dans la production. Donc, il a fallu qu'ils retournent à la table à dessin pour leur collant. Mais ça va faire, il va avoir une carte sticker dans chaque paquet. Quand tu vas drafter le set, cette carte-là ne se drafte pas, c'est comme le token. Tu vas la garder avec toi, dans le fond, ou comme les cartes donjons qu'il y avait dans EFR. Fait que tu t'ouvres le paquet, la carte avec des stickers dessus.
Par contre, elle a une utilité totalement différente de
Star Wars. Elle a une utilité totalement différente. On va voir. Il y a plein de.
Ça va-tu être draftable?
Stickers dessus. Non, c'est ça que j'ai.
C'est pas un pic de draft.
C'est pas un pic de draft. Quand tu ouvres le paquet, t'enlèves la land, tu la gardes si tu veux, et tu gardes exactement les stickers. Fait que là, on peut voir ici, il y a comme Eldrazi, Guacamole, Tightrope. Chaque petit nom se sépare pour être mis sur une carte. Le art, c'est un sticker de alerte, un chapeau de wizard, une carte de magic, un squirrel, une tuque, une poupée de... Est-ce que tu reconnais le personnage, Jason?
C'est le gars qui est mort.
C'est le gars qui est mort.
Gideon, c'est un ange de Gideon?
Non. Gideon?
Ah oui, c'est Gideon.
Ah, je pense que c'est Gideon. Oui, il y a son.
Ça ressemble à Gideon.
Armure bleue. Oui, oui. C'est,
hey, bon corps, Jonathan.
C'est juste son temps X.
Bien joué. Oui, le bonhomme qui est mort, évidemment.
Le seul, il ne reviendra jamais. C'est impossible. Comment tu veux
ça? Il y a également du flavor text, là. Ben, pas du flavor text, mais des keywords. Haste, you may cast this card from your graveyard en payant 2 de vie en plus.
Mais là, c'est quoi qui colle là-dedans?
Là, tout ce que tu vois sur la carte se détache et se
colle. Ben, voyons donc.
Ce qui est écrit Haste, ce qui est écrit You may cast this card from your graveyard. En bas, tu vois, il y a deux line stats, là, 1-4 ou 5-3. Ça se décolle puis ça se remplace. Le art se met sur le art. Toutes les keywords vont se mettre. S'il y a de la place pour mettre du keyword, tu le mets. Sinon, ben, tu caches ce qu'il y en a en dessous. Tu peux juste avoir un stat line par carte, fait que tu la mets par-dessus. Si tu avais plus de stickers, tu peux mettre plusieurs stickers. Puis on voit à côté de certains stickers, il y a une espèce de ticket.
Chiffre, ouais.
De chef avec des tickets, c'est que certains stickers vont coûter des tickets à placer. Il va y avoir des cartes qui vont te permettre de placer des stickers, qui vont te donner des tickets. Puis les tickets fonctionnent un peu comme l'énergie. C'est un counter là, que tu perds pas, fait que tu peux accumuler les tickets puis après ça en dépenser, mettons, 3 pour mettre Shadow à une créature. Pense.
Mais cette carte-là, elle se joue... à ce jour, au moment que tu, un peu comme le donjon.
Ben, c'est pas une carte que tu joues, c'est que t'as tes stickers qui sont là, qui sont accessibles. Ouais,
mais est-ce que le joueur en face doit les voir? Ou c'est caché, ta carte de sticker est cachée, tu sais. Je comprends-tu,
C'est une bonne question. Mais tu sais, fait que là, tu peux donner un Eldrazi creature type à n'importe quelle bébite ou changer le nom de.
Mais ça, whatever. C'est tellement hot pour tout ce qui est comme, mettons, du sealed ou du draft, là. C'est le fun pour du one shot, mais après ça, tu scrapes tes cartes, puis tu sais,
Ben, après ça, tu peux remettre les stickers sur ta carte à stickers.
Ah, oh,
après moi, ils vont coller une couple de fois. Là, puis tu sais, les cartes Magic et même les sleeves, là, c'est du petit plastique.
Ah, sur du sleeve.
Là, ça va décoller puis recoller assez facilement. D'après moi, tu peux t'en servir une couple de fois. Et puis, dans le fond, les stickers restent sur toutes les zones publiques, fait que le graveyard, le battlefield, etc. Mais si tu rebrassais une carte dans ton deck, par exemple, ou dans ta main, les stickers s'en vont. Je vous ai expliqué pas mal rapido les règles.
Ils sont pas perpétuels.
On n'est pas encore rendu à alchimie. Mais ça, c'est ce qui se rapproche le plus de alchimie en paper Magic.
On dirait comme du scrapbooking sur Magic.
Ouais, absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire, Most Sticker Cards are Eternal? C'est un peu comme les emblèmes. C'est ça le concept de l'idée?
Ouais, c'est du I guess.
C'est la carte. C'est pas un removable. Tu peux pas l'enlever, tu peux pas le.
On va voir, là. On n'a pas vu encore toutes les cartes, là. Et on va voir ce qu'on va faire avec.
Moi, je trouve ça le fun. Je trouve que ça rajoute. Ben, en tout cas, c'est du run, là. Ça, c'est clair. C'est sûr. Ah,
absolument. Fait que, pour vous donner une idée, je vous ai sorti la carte Animate Object. C'est une carte classique qu'on a déjà vue dans Magic. Ou quelque chose du genre, ou peut-être. Pour 4 colorless, un bleu, un sorcery, tu reçois 7 étiquettes. Tu choisis un objet inanimé que tu own from outside the game. Tu mets un Power Toughness sticker dessus, tu lui mets un Name sticker, tu lui mets un Art sticker et tu lui mets un Ability sticker dessus. Tu mets la créature que tu viens de former sur le battlefield et tu as maintenant un Eldrazi Hamburger ou whatever que tu avais trouvé.
J'aime qu'ils disent inanimate. Tu peux pas utiliser ton chat ou ton guinea pig.
Ou ta grand-mère qui passait par là. Donc...
À part c'est mort.
Oui. Et le flavor text, tu veux nous le lire?
Oui, je peux pas. Tap beverage with extreme caution.
C'est ça. Faut faire attention quand tu tapes ton drink pour attaquer. Donc, voilà pour les stickers. C'est quand même c'est une drôle d'idée.
Tu vois, ils m'ont déjà. Là.
Ben oui.
C'est tellement nul.
Un autre concept qu'il va y avoir, c'est les attractions, hein, parce que c'est un parc d'attractions. Fait que tu vas avoir un espèce de deck de attractions qui va être à côté. C'est des artefacts. On va en avoir quelques-uns, là. Et puis, pour ouvrir une attraction, il va y avoir des cartes qui vont te dire « Open an attraction », ben, tu vas prendre la top card de ton deck de attraction et la mettre sur le battlefield.
C'est comme les contraptions, ça.
Oui,
Tu fais comme un deuxième deck
c'est
si tu en
pas. Exactement ça.
Moins compliqué, j'espère. Bien parce suivi. Que contraption, c'était compliqué en NES.
Ben, ce qui va se passer avec les attractions, c'est qu'au début de ta main phase, tu vas rouler un D6. Okay. Puis il va y avoir beaucoup de dés à rouler là, dans le set, je vous avertis. Tu roules un D6 et chaque attraction a certains chiffres sur lesquels tu peux aller les visiter. Fait qu'on peut voir ici, par exemple, sur
comme Centrifuge. Comme des heures d'ouverture.
Exactement. Tu vois, sur Centrifuge, il y a le 3 et le 6 d'allumé. Okay. De ce que j'ai vu, toutes les attractions, il y avait le 6 d'allumé, plus au moins un autre numéro.
Okay.
Fait que quand tu roules ton dé, ben, si tu roulais un 3 ou un 6, ben, tu vas aller la visiter. Le Centrifuge, par exemple, quand tu vas visiter, c'est que chaque joueur pige une carte de la, du deck du joueur à leur droite et tu te crées 3 treasure tokens. Tout le monde est mêlé parce que
c'est
en train de tourner.
Mais l'idée des 3 treasure tokens, c'est bright parce que ça te permet de jouer la carte d'à côté.
Exactement.
Je pense que c'est une deuxième bonne raison de sleever tes cartes en draft pour être sûr de spotter.
De les retrouver.
Ouais, non, ça c'est sûr.
De les retrouver après. Mais tu sais, tu peux voir comme le gift shop. Si tu roules 2, 3 ou 6, tu vas le visiter. Tu choisis un effet qui n'a pas encore été choisi. Crée un 1-1 red balloon creature token avec flying. Crée un 2-2 pink teddy bear creature token. Crée 2 food tokens. Tu reçois 3 stickers trois tickets plutôt, où tu peux mettre un sticker sur un non-land permanent que tu contrôles, ou le Hall of Mirrors que tu visites sur un 2 ou un 6. Quand tu le visites, tu choose target creature que tu contrôles et chaque autre créature que tu contrôles devient une copie de cette créature-là, sauf qu'elles ne sont pas légendaires. Si la créature était légendaire,
c'est donc bien cute.
C'est vraiment très drôle.
Mais là, les couleurs ont-tu une signification?
Oui, ça ouais, il respecte même la color wheel.
Non, mais les couleurs, tu vois ici, il est marqué comme rouge.
Ouais.
Bleu, rouge, vert.
En fait, moi, je pense que. Parce qu'il y a plusieurs copies de la même. Comme la centrifuge, là. Les flavor text.
Il y en a qui sont pas pareils. Sur plusieurs chiffres.
Moi, je pense que les centrifuges, il n'y a pas tout le temps 3 puis 6. Il y en a 1 puis 4.
Ou les couleurs ont l'air d'être liées avec le chiffre, par contre. Parce que tu regardes comme 3, 6, tout le temps. Tu sais, comme. Fait que c'est peut-être pour aider les
chiffres. Il n'y aura pas tout le temps le même chiffre.
Pour faire des lumières de Fight Foreign.
Fait que c'est bon parce que tu peux piquer, mettons, deux halls des miroirs, mais qui ont des chiffres différents. Fait que ça augmente tes chances de l'ouvrir.
Je pense pas.
Tu penses pas quoi?
Ben, t'es choisi pas, là, t'es pige du top de ton.
Non,
mais je veux dire parce que quand on draft.
Quand
on draft, faut tes puns, right?
Ouais.
Mais dans le fond, c'est que si t'as deux Hall of Mirrors, c'est plus de fun si t'en as deux que c'est pas les mêmes hits sur le
point. Ouais, mais en même temps, c'est un jet de dés. Je veux dire.
Ouais, mais c'est ça.
Le hasard, c'est du hasard. Mais...
C'est que si, mettons, t'as Hall of Mirror qui s'active sur 1 à 3. Je pense qu'on est
tous pas s'en parler maintenant parce qu'on
sait
pas.
Non, continue, excuse.
On lance.
On spécule,
On spécule. On s'en reparlera quand on aura les règles bien en tête. Tu sais, un exemple de carte d'attraction, le Goblin Blastronauts, 3 colorless, 2 rouges pour une 5-4. Quand elle rentre sur le battlefield, tu ouvres une attraction, donc tu vas piger la première carte, tu la mets en jeu, puis à chaque fois que tu roules un 6, peu importe la situation, you may copy the spell, l'habilité ou le attraction visit causé par ce jet de dés. Tu peux choisir des nouveaux targets pour la copie. Je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de dés à rouler. Un exemple de carte où est-ce qu'on va rouler des dés. Le nouveau Planeswalker, Comet. Comet, le Stellar Pop.
Petit chiot
avec sa niche vaisseau spatial. C'est un Planeswalker qui coûte 2 colorless, un rouge et un blanc, qui rentre avec 5 de loyauté et son habilité unique de Planeswalker, elle coûte 0. Ben voyons donc. Elle coûte 0 et tu roules un D6. Et selon le résultat, c'est l'habilité qui va arriver. Donc sur un 1 ou un 2, tu fais plus 2 de loyauté. Ensuite, tu crées 2 1-1 Green Squirrel Creature Tokens qui ont haste jusqu'à la fin du tour. Sur un 3, tu fais moins 1, puis tu retournes une carte avec mana value de 2 ou moins du graveyard dans ta main. Sur un 4 ou un 5, Comet Stellar Pop fait des dégâts équivalents au nombre de loyalty counters dessus à target creature ou player. Et ensuite, tu fais moins 2. Ou 6, sur un 6, tu fais plus 1 et tu peux activer la Comet Loyalty Ability 2 more times.
Fait que tu peux lancer 2
lances 2 fois. Puis là, si tu retombes un 6, tu recommences et le mayhem continue.
Ça coûte 0 de loyauté. Comet, il est tout le temps loyal si tu es capable de le protéger. Là.
Exactement.
Fait qu'il est canon. On a un Planeswalker qui s'appelle Comet.
Ah oui, puis check, il n'y a pas de Acorn, fait que tu peux jouer en.
C'est ça que je dis, là, c'est comme il est legit.
Absolument. Un autre exemple de dé, le Center of Attention. Centaur. Le centaure de l'attention. Un Centaur Performer pour 3 colorless, 2 verts, une 3-3. Quand elle rentre en jeu, tu roules 5. Dés à 6 faces et tu stores les résultats dessus. Fait que tu mets le paquet de dés dessus au début de chacun de ton tour. Au début de combat à ton tour, tu peux rerouler n'importe quel nombre de dés qui avait été storé sur le centaure et le centaure fait +X+X où X est le greatest number of stored results dessus qui ont la même valeur. Fait que disons que tu as 5. Un peu, ouais.
Tu essaies d'avoir tes 5-6 si possible pour avoir 6. Ouais,
idéalement, pour faire +6, +6. Fait que ça, c'est bien drôle. Puis tu roules à chaque tour. Puis t'as plein d'affaires qui activent là, si tu roules des 6 ou si tu roules des dés. Fait que... Et Jason, tu vas être content. Ils ont enfin sorti ta carte. On se rappelle dans les autres onsets, là, il y a déjà eu le Power Gamer, il y a déjà eu Spike, le Tournament Grinder, il y a déjà eu Johnny, le Combo Player. Qui est-ce qui manque? C'est le
l'artiste.
Ouais, c'est le Vortos, Steward of Myth, l'amateur de lore. C'est Jason, un colorless, un rouge pour une, un 3, Human Gamer, Legendary Creature. Quand Vortos, Steward of Myth, rentre sur le battlefield, choose a named magic character. Vas-y.
Teferi, whatever.
Okay, non, Teferi. Ouais, Teferi. Spell you cast with the chosen character in its name, flavor text ou art coûte Wooburg de moins à caster. Cet effet.
Ouais, tellement dû prendre autre chose.
Ben là, ça dépend ce que t'as dans ton deck, j'imagine.
Hey, Progenitus, let's go.
Et voilà. Fait que
ça, Urza, c'est pas pire aussi.
Cet effet réduit seulement le colored mana que tu dois payer. Là, fait que le colorless, les
temps. Ah, c'est cool.
Nomme une carte qui coûte Wooburg. Ben.
Puis là, c'est une genre de cosplayer avec un. Elle a une couronne de Nicole Bolas.
Ouais, après. C'est quasiment nice. Un Kingurumi.
Elle a slivé son deck. Ça, c'est typiquement moi, là. Le, toi, elle a slivé son deck avec des cornes de Nicole Bolas. Là.
Oui, avec thématique.
Elle est dedans, là. Elle est vraiment thématique. Là.
Et le flavor text est très drôle aussi. C'est ouais. Just wait, my Madara deck isn't all Emperor Bolas. There's an Umezawa sub-team.
Hey, nerd. Bon,
ça, c'est nerd.
Tu vois, je pense que. C'est quoi en arrière? On dirait que c'est le salaire du symbole de la monquette.
Oui, c'est le symbole. Là, un chandail du symbole de la monquette. Parce que, tu sais, elle va pas mettre un chandail qui n'a pas rapport.
C'est ça. C'est thématique jusqu'à la fin. Donc, voilà. Voilà pour le pour Unfinity. Ça sort prochainement.
Hey, c'est excitant. Et nous, si je me trompe pas, on va les avoir des cartes. Là. On va avoir des cartes quand on va être à la
Non seulement on va avoir des cartes, mais on va faire un sealed. Ou peut-être un draft.
Las Vegas, quand vous allez à Las Vegas.
Rosewater lui-même, le vendredi soir.
Oh, ouais.
C'est le Unfinity Event. Ouais.
Payez ça, man. C'est tellement concept jouer du Unfinity dans un casino à Las Vegas.
Avec Mark Rosewater.
Avec Mark Rosewater. C'est vraiment c'est cool.
Bon, ben, c'est tout pour.
Ça sort le 7 octobre.
Ah, bon, ben, 3 semaines avant, c'est parfait. Donc, je pense qu'on vient de finir la première partie. On va s'en aller vers la carte de la semaine, qui est une présentation de l'adversaire. Et je vais laisser
4303 Sainte-Catherine Hearst. Si vous écoutez l'épisode cette semaine, la semaine de sa sortie, on fait un karaoké dimanche. Venez faire un tour, ça va être bien le fun à partir de 5 heures.
Ah, c'est vrai, j'y vais parce que c'est ta fête.
Oh, yeah, en plus.
Entre autres. Ben oui. Entre autres. Bon, et je vais prendre le Non, c'est tout. Puis on va y aller avec le Beatabone avant de se rendre à la carte de la semaine. Présentation de l'adversaire. Je l'ai déjà dit, on y va. Donc, c'est quoi la carte de la semaine qu'on a choisie cette semaine?
Ben écoute, tant qu'à être dans la thématique Unfinity, on va y aller avec la nouvelle carte d'un Planeswalker qu'on connaît. Tout bon Planeswalker a besoin de décompresser puis d'aller dans la fête foraine pour, je sais pas, peut-être aller gagner un toutou. Et j'ai nommé... le fameux Space Bellerin. Jace est de retour et il est dans l'espace pour 2 colorless, un blanc et un bleu. Jace qui n'est pas mono bleu, tiens. Il rentre avec 3 de loyauté et son habilité, son passif, c'est Space Sculptor. Quand il rentre en jeu, tu divises le battlefield en 3 secteurs, le secteur alpha, bêta et gamma. Si une créature n'est pas assignée à un secteur, son contrôleur l'assigne à un et les opponents assignent leur créature en premier.
Wow.
Sans plus un, les créatures de chaque secteur ne peuvent être bloquées que par des créatures dans le même secteur qu'eux. Moins un, tu mets un plus un counter sur chaque créature dans le secteur de ton choix. et son moins 5. Tu détruis toutes les créatures dans le secteur de ton choix. C'est Space Beleren, ouais. La police du cosmos qui vient
mettre
un peu d'ordre là-dedans.
c'est un autre jeu dans une carte.
Yes. Et là, je veux qu'on aille ce débat-là tout de suite. Est-ce que le casque qu'il a sur la tête, est-ce que c'est un chapeau?
Mais c'est un hommage à Buzz Lightyear.
Réponds à ma question.
C'est
C'est un chapeau?
Non, c'est pas un chapeau.
Ah, je comprends ce que tu veux dire.
C'est pas un chapeau? Es-tu sûr?
Moi, je pense un chapeau.
Moi aussi, je pense
que c'est un chapeau.
C'est un chapeau.
OK, ouais.
C'est important d'avoir ces discussions-là parce que dans le set, il va y avoir un thème qui est les chapeaux sont importants. Tu sais, comme des fois, t'as Graveyard Matters. Là, c'est At Matters.
Mais c'est pas la première fois, mais ça, dans le set précédent, Unset faisait ça aussi.
Oui. Ils sont très spécifiques cette fois-ci.
Il va y avoir des cartes qui vont dire... mets +1/+1 counter sur toutes les créatures qui ont un chapeau.
C'est pour ça qu'il y a des stickers de chapeau.
Et c'est ça, tu as vu, Andy, sur chaque carte sticker, il y a au moins un chapeau. Effectivement, fait que tu vas pouvoir rajouter des chapeaux sur les créatures qui n'ont pas de chapeau. Il y a même une créature, là, on la verra plus tard, là, qui te permet de donner des chapeaux aux créatures qui n'en ont pas.
J'ai vraiment hâte. j'ai trop hâte.
Notez que la carte qui divise le Battlefield en zone.
Space Beleren, ouais.
C'est pas la première fois dans Magic. T'as Raging River dans Alpha qui faisait ça. Puis Stand or Fall dans Invasion. Comment?
C'était compliqué, ça.
Ouais, c'était dans le rouge, c'était des enchantements. Ça séparait le Battlefield en deux zones. Tandis que là, Star, c'est trois zones.
Il y a le jeu de cartes de Elder Scrolls qui, par définition, il est divisé en deux. J'espère que ça va fonctionner mieux que ce jeu-là.
Il y a aussi les lanes de Gwent trois zones selon...
J'ai aimé Gwent.
Mais Gwent, c'est fait comme ces concepts, là, c'est dans le jeu directement.
Oui. Juste avant, si vous me permettez, avant qu'on switch de set, je veux juste souligner, ça me fait vraiment triper, moi, jusqu'à date, dans le on-set, c'est toute l'esthétique des vieux films de science-fiction des années 60, genre Lost in Space, puis je trouve ça le fun que dans direction artistique, faites pas juste la science-fiction, on veut pas quelque chose de slick, on veut ces années-là spécifiquement.
On le voit beaucoup dans les alt art, là. Vous irez voir, là, c'est très poster.
Des années 60. Puis il y a un petit peu de Metropolis aussi, un feeling de ça. Là. Fait que, je suis vraiment, vraiment excité. Moi, ça m'excite. Moi, les on-set, là, le dernier, il était rough un peu, mais même là, c'était
le fun.
Ça va être drôle.
Ouais. Fait que, c'était la carte de la semaine, une présentation de l'adversaire.
4303 Sainte-Catherine-Est.
Merci. Et on retourne vers le Beatabone pour après ça aller vers du lore. Une des sections qu'on aime le plus, je pense, à Terre Basique, sans contredit. Beatabone. Jason, amène-nous vers où est-ce qu'on s'en allait.
Donc, vous voyez mon écran?
Oui. Yep. Yeah.
La semaine passée, quand on s'est laissé, on avait terminé le set Tempest, sorti à l'automne 97. Je veux qu'on commence, on va essayer de le finir, mais au moins on va commencer le set de Stronghold qui est sorti à l'hiver suivant, en 98. Qui, by the way, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était la même équipe qui faisait les sets d'un bloc, puis ils faisaient ça en même temps.
Okay.
Fait que Stronghold a été fait en même temps que Tempest et les mécaniques sont les mêmes. T'as, dans le fond, le buyback, Shadow, les Slivers. Sauf que contrairement à Tempest, Stronghold, c'est un petit set. Et pas un gros set. Il venait pas avec des basic lands. Fait que quand tu draftais, t'avais un pack de Stronghold, deux packs de Tempest. La thématique de ce set-là, c'est que l'équipage de Weatherlight sont arrivés à la fameuse Stronghold. Puis t'as plusieurs cartes. Stronghold, c'est la forteresse des Phyrexiens sur Rat. Et il y a plusieurs cartes où on va voir ce fameux château-là. Hein. Stronghold, c'est une forteresse. Comme le Sky Shroud Archer, où ce qu'on, je vous avais parlé, les elfes de la forêt de Sky Shroud sont en guerre contre Volrat et les Phyrexiens. Fait que quand ils avaient parlé, si vous vous souvenez, ils avaient fait une espèce de réunion avec Gérard. J'ai failli dire Jace, hein? Les héros. Ils avaient fait une espèce de meeting dans la forêt. Là, t'avais le roi des elfes et la damerie. Il y avait Gérard. Puis là, ils se disaient, il faut qu'on fasse quoi avec les Phyrexiens? Et nous, on veut sauver Cissé qui est gardé dans le Stronghold. Fait que j'aime vraiment beaucoup que la forteresse de Stronghold, c'est un des endroits mythiques de Magic. On le voyait notamment là, dans Dominaria United, il y avait des ruines du fameux Stronghold. Dans le set de Stronghold, c'est là qu'on commence à le voir. Hein. C'est le fameux... tout le monde a sûrement vu la carte Urborg, Tomb of Yawgmoth. Dessus, c'est aussi le dessin du fameux Stronghold. Il y avait aussi la carte, bon, dans le fond, dans Stronghold, il y avait la carte Legendary Land Volrat Stronghold. C'est le premier land Stronghold là, qui apparaît. Là. Tu vois, ça fait un mana colorless où tu peux payer 2 et mettre une créature de ton graveyard sur le top de ta librairie.
Quand même. Hein?
Ouais, c'est cute. Ça n'a jamais vu du gros play. Là. Ça dit cependant dans le flavor text la source du mal dans ce monde. Et si vous remarquez le design de la forteresse de Stronghold, c'est... premièrement, vu de l'extérieur, c'est une espèce de grosse montagne où il y a tout le temps une espèce de tourbillon, hein, un tempest qui tourne autour puis qui alimente les nuages. Vous me suivez?
Ouais.
Et à l'intérieur, il y a une espèce de grande chambre voûtée où il y a une espèce de forteresse phyrexienne suspendue avec une espèce de rayon laser de magma qui rentre dans le sol. Vous me suivez?
Ouais. Jusque-là, ça va.
Jusqu'à là, ça va. Donc, la semaine passée, si vous vous souvenez, ils avaient atteint le Stronghold en passant par les Furnace of Rat.
Ben oui, c'est weird.
Qui est les souterrains de lave là, qui passent sous la forteresse. Cette espèce de flot de lave-là, puis la tempête qui est au-dessus, c'est la source du plan de Rat. C'est que la forteresse, le Stronghold, c'est une usine qui fait l'équivalent, c'est des genres de nanotechnologie. Là. C'est le fameux Flowstone. Okay. Vous avez sûrement vu plein de cartes dans Magic qui sont les Flowstones. C'est tout ce qui est plus un, moins un. Il y en avait notamment dans Dominaria United avec la carte Flowstone Infusion qui faisait plus 2, moins 2. Ça, c'était une très bonne carte en draft. Mais dans Stronghold, tu avais plein de cartes qui avaient Flowstone, Flowstone Blade, Flowstone Chamber, Flowstone Helion. C'est que l'usine de Volrat, ce qu'a produit, c'est le mana du plan de Rat. Tu sais, je vous avais dit que tout était comme artificiel puis importé. Mais les lands... Toutes les cinq laines de Rat, le montagne, forêt, plaine, swamp, et mon. Je l'ai oublié un. Whatever, vous me suivez. Là. Fait que c'est créé C'est créé par la forteresse de Stronghold. C'est comme une espèce de flot continu qui pousse le reste.
Okay.
Et le but, c'est de créer le plan de Rat. C'est une espèce de grosse bulle qui enfle. Et à un moment donné, la masse, ça va être telle que le plan va fusionner sur Dominaria. Ça, c'est le fameux plan des Phyrexiens. C'est dans le set Stronghold qu'ils vont faire le reveal. On va le voir sur les cartes tantôt. J'aimais beaucoup, là, ils avaient fait beaucoup de concept art pour nous montrer. Il y avait notamment, c'était pas sur des cartes, là, c'était dans des produits promotionnels où on voyait le Stronghold mis à l'échelle à côté du World Trade Center et de la Tour Eiffel.
3 kilomètres, oui, quand même.
Ouais, c'est fait 3 kilomètres de haut.
De haut. Ça, j'ai le feeling que ça va être retconné, genre comme quand ils vont ramener le Predator bientôt, j'ai le feeling qu'ils...
On va voir. Mais le Stronghold, il est sur Dominaria maintenant. On va voir pourquoi dans quelques sets. Fait que c'est ça. Fait que t'avais le retour des gobelins, hein, les fameux mugs. La forteresse, on comprend qu'elle est infestée de mugs. C'est les gobelins que Volrat modifie pour les rendre encore plus tough. Puis c'est vraiment là que les decks de gobelins vraiment forts vont commencer là, en 98. Là, le mug flunky, c'est un 3-3 pour 2. Ça a l'air de rien de nos jours, mais à l'époque, c'était vraiment fort d'avoir
autant de power. J'avais tout ça, ces cartes-là, dans mon deck de gobelins au secondaire.
Ouais, c'est fantastique. Mug Maniac aussi, là, Jonathan, il m'avait planté avec cette carte-là. Chaque fois qu'il reçoit du dégât, il repitche d'en face. Bref, Les gobelins sont au rendez-vous et la carte fling hein, que ça va avec, là, c'est que tu sacrifies une créature pour faire le dégât sur une créature ou un joueur. C'est un archétype là, qu'on voit encore beaucoup à Magic 20 ans plus tard.
L'archétype des messieurs tout nus.
Non, mais l'archétype que tu sacrifies une créature pour la toucher dans la face du joueur.
J'avoue que c'est très nu.
Moi, hein? Tout le monde est tout nu. C'est Paolo Parente, l'artiste. Il y avait le retour des slivers. Dans Tempest, les slivers ils étaient tous monocouleurs et ils s'étaient situés dans la fournaise de rat. Dans Stronghold, tous les slivers sont multicouleurs puis c'est des slivers de palais. Par exemple, le Crystalline Sliver, un bleu, un blanc pour un 2-2 qu'il donne Shroud à tous les slivers. Ça, c'est très, très fort.
Ça, c'est désagréable longtemps. Ouais.
C'est dans les premiers decks compétitifs de Sliver, c'était bâti autour de Crystalline Sliver.
Clairement.
J'en ai déjà parlé, l'épisode 110 sur les Sliver. Je vais arriver au storyline. Donc, on se rappelle, c'est ça, la raison pourquoi Gérard et sa gang du Weatherlight rentrent dans le Stronghold, c'est pour aller sauver Cissé qui savent a été kidnappé par les Phyrexiens dans le set Weatherlight. Et ils se sont entendus que pour faire détourner l'attention des Phyrexiens, ben, les elfes montent une grosse attaque contre le Stronghold. Il va y avoir comme plusieurs cartes de bataille dehors. Tu sais, le bon vieux de diversion, là, comme Awakening, où ce qu'on voit le fameux oracle en Vec et Eladamri. Hein, je vous ai dit qu'on allait le voir souvent, le roi des elfes. Awakening, c'est un enchantement qui est au beginning du player upkeep. Tu untapes toutes les créatures et les laines, parce que bien sûr, c'est des elfes, ça untape des choses. There are times when destiny calls forth a people and demand an action. Now is the time. We are the people. This is our action. Charge! Signé le roi des elfes. Eladamri, Lord of Leave. Fait que c'est ça, il monte comme une grosse attaque, là, puis il y a comme plusieurs cartes qui montrent cette espèce de guerre, de siège dehors. Primal Rage, où on voit les mugs qui sortent de la forteresse pour crisser une volée aux elfes. Un colorless, un rouge, toutes les créatures gang trample.
C'est quand même bon, hein?
Ouais, fait que c'est un peu la thématique du set.
Ben oui, puis le Flavor Text, c'est la suite directe. Ah, ouais. Tu viens de nous lire. C'est charge! A great cry went out, and countless elves and vex soldiers charged up the mountain, their fury and passion hid the fact that they were horribly outnumbered.
Pauvres donc, on voit la continuité toujours là, des comic books. Là. T'as plus ça dans Magic de nos jours. Ils ont jamais revenu à de quoi d'aussi. Tu sais, qui suit autant
linéaire, sur
ouais, très linéaire. Fait que pendant ce temps-là, tu sais, qu'il y a la grosse bataille dehors et ça attire l'attention, ben. Le Weatherlight, qui ont passé à travers le Furnace of Rat puis le Death Pit of Rat qu'on avait parlé le dernier épisode.
Le Commando Squad.
Ben, il arrive au pied du Stronghold hein, pour rentrer à l'intérieur. La carte Leap, où ce qu'on voit Miri qui a sauté. Le dessin est un peu mal représenté, là, mais en arrière d'elle, dans l'ombre, c'est la forme du Weatherlight, la coque. C'est qu'elle saute du Weatherlight pour sauter sur la garde qui garde la porte d'entrée. Ça donne Flying until end of turn, une créature, tu piges une carte. On voit que, tu vois, Miri sauta rapidement et sans faire de bruit. Le garde est mort de la même façon, rapidement et sans faire de bruit. Donc, tu sais, c'est comme j'ai dit, là, c'est très linéaire. Ensuite, ils vont devoir marcher, tu sais, ils vont rentrer dans la forteresse. La première salle qu'il y a, c'est le Bottomless Pit. Puis ça, c'est une excellente carte. Si vous aimez ça, faire perdre des cartes dans les mains des autres, là. Bottomless Pit, un colorless 2 noir. À chaque upkeep de chaque joueur, il doit se discarter d'une carte au random. Et peu de gens l'ont remarqué, mais à chaque fois que je leur fais remarquer, ils trouvent ça vraiment cool. C'est que les passerelles du Bottomless Pit, c'est le même dessin que ce qu'on retrouve sur la carte suivante. C'est le Ensnaring Bridge. Pour 3 colorless, les créatures qui ont un power plus grand que le nombre de cartes que dans ta main peuvent pas attaquer. Si vous avez joué contre des decks de contrôle, souvent en Legacy et en Modern, ils vont jouer le Ensnaring Bridge, où qu'on voit Gérard qui se fait attaquer par le pont qui a, tu sais, j'ai mentionné le Flowstone, hein, c'est la pierre, elle arrête pas de bouger, là. Fait que ça fait des genres de bras qui essaient d'attraper Gérard. Pas mal cool la suite là, entre le Bottomless Pit puis le. Moi, j'aime beaucoup la carte Bottomless Pit. C'est tu joues par en bas au lieu de piger draw the card, là, c'est que tout le monde n'a plus de cartes puis tu vas jouer ça avec des racks puis des maigrimes.
Puis ça fait un bon combo avec le Ensnaring Bridge, justement, parce que progressivement, tu
invalides
les. Ouais.
T'as plus de cartes, fait qu'il n'y a plus personne qui peut t'attaquer, puis là, t'es tué lentement avec des racks, des choses comme ça. Vraiment cool. Fait que ils vont passer à travers ça va quand même pas pire bien se passer. façon de parler. Mais tu sais, on présume, tu sais, c'est comme des side quests, là. Éventuellement, ils vont arriver dans la salle centrale qui est le Invasion Plan. L'Invasion Plan, deux colorless, un rouge. Les créatures doivent toujours bloquer. Puis le joueur qui attaque choisit comment les créatures bloquent. Cette carte-là est vraiment importante pour le storyline parce que ce qu'on voit, c'est Gérard et... excuse, j'ai oublié un aspect important. Excuse, ceux qui sont partis du Witherlight, je veux juste rappeler, là, parce que c'est important qu'on sait où sont les gens. Ertai, on se rappelle, il gardait le portail pour essayer de l'ouvrir, pour retourner sur Dominaria, parce que je rappelle, le Witherlight n'est plus capable de planeswalker. Karn, Tongarth, puis Cissé sont les prisonniers dans le Stronghold. Et c'est que la fille de comment elle s'appelle?
Stark.
Gérard, Stark, et Miri et Krovax, c'est eux qui rentrent dans le Stronghold. Puis Orimana puis Squee restent sur le Weatherlight. Ça, c'est important de garder ça en tête. Fait que c'est ça. Dans la salle, ils vont découvrir le Invasion Plan, que c'est ce que je parlais tantôt. Tu vois, c'est Gérard a étudié le globe pendant que Miri faisait la garde. Soudainement, ses yeux sont devenus bien ronds. Il a reconnu Dominaria, hein, This is Dominaria. Et c'est la première carte map sur une carte Magic où on voit la forme de Dominaria qu'on va revoir par la suite souvent. Là. C'est vraiment cool, ça, cette carte-là. Je trouve le storyline, ça l'envoie. C'est là qu'ils comprennent que, dans le fond, le plan de Rat est en train de, à mesure qu'il grossit, il est en train de fusionner sur Dominaria. C'est ce qui va mener aux événements qu'on voit dans Invasion. Puis c'est aussi ce que Urza essayait de prévenir quand il a préparé tout son legacy et ces choses-là.
Je tiens qu'à dire que le top ressemble beaucoup à l'Eurasie. Là.
Ouais,
et à droite, ça ressemble beaucoup à, genre,
à l'Afrique.
Les Amériques. Ah oui, l'Afrique. Ah, t'as raison, c'est l'Afrique. Ben oui.
Vas-y.
Là, on voit techniquement seulement 50% de la map.
Ouais, là, tu vois juste la moitié, parce que ce qu'on voit, c'est en fait, c'est en haut à gauche, c'est le globe est à l'envers, by the way, là, le sud est en haut. En haut, c'est Jamura, puis en bas à droite, c'est comment ça s'appelle, Aerona, qui est là, ce qu'il y a Benalia, puis Lanwar.
Okay. Puis l'autre affaire qui est super importante, puis genre, je suis content de l'apprendre en écoutant Terrain Basique, c'est que même dans Magic, la Terre est ronde.
Oh, ben ça peut. On voit pas la trois-dimensionnalité en ce moment.
Oui, une carte, c'est juste en 2D, une carte.
C'est peut-être plat sur le vertical. Là.
Non, check la base, il y a ses rompes, c'est sphérique de la profondeur.
C'est juste à cause de la magie.
Ouais,
c'est ça. Ah, OK. Krovax, il va être beaucoup affecté par cette révélation-là. La carte Megrim, on voit que c'est toujours dans la même pièce. Il y a encore le globe terrestre en arrière, même si c'est plus clair les maps dessus. Mais la scène, elle se passe exactement au même endroit. Là. On voit Gérard qui essaie d'attraper Megrim, qui se pogne. Pas Megrim, Krovax qui se pogne la tête. Ça, c'est chaque fois qu'un adversaire perd une carte, Megrim, il fait 2 de dégâts. Fait que ça joue très bien avec le Bottomless Pit.
I know, right?
You can run from your pain, explain it Gérard to Krovax. But take it from experience, you will tire before it does. Fait que là, c'est comme Gérard fait un get a grip. C'est comme, comment, on est des héros, on n'est pas censé flancher. Puis l'autre carte qui se passe dans la même pièce, c'est Miri. Hein. On avait dit Miri a monté la garde pendant qu'eux fouillaient sur la carte. Intruder alarm, 2 colorless, 1 bleu. Et les créatures n'untapent pas pendant le untap phase. Puis à chaque fois qu'une créature entre en jeu, tu untapes toutes les créatures. Ça permet de faire des beaux build around.
Ben oui.
On voit que Miri, probablement qu'elle a pesé sur quelque chose, hein, parce que on voit une espèce de forme fantomatique de Volrath qui apparaît. Dans le fond, Volrath se rend compte que le Stronghold est infiltré. Miri was startled by Volrath apparition. Il n'avait pas d'odeur. Ça, c'est très comique.
Ah non, c'est un hologramme.
Ouais. Parce que bien sûr, hein, sur la carte contemplation, on voit la carte contemplation, c'est chaque fois que tu casses un spell, tu gagnes une vie pour un colorless 2 blanc. On voit Volrath qui est assis dans son trône et qui regarde, il a fait apparaître une espèce de boule de magie dans sa main et il regarde nos trois héros qui sont en train de disons, Gérard, Krovax et Miri. Je trouve ça vraiment cool, la séquence. Là. How fascinating it is to watch the machination of one own mind play themselves out. Ensuite, le groupe, tu sais, il veut dire, OK, là, on est repéré, fait qu'il faut qu'on bouge rapidement, mais on va pas, tu sais, pour que ça va mieux, on va se séparer. Fait que Gérard s'en va à gauche avec Stark et Miri s'en va à droite avec Krovax.
You don't split the party, come on.
Ouais.
Ben, c'est pas un film d'horreur, fait.
Gérard et Stark vont se retrouver dans les jardins. Fait qu'on va sur la carte Hésitation, qui est un enchantement que si tu joues un spell, ça va être counter si tu sacrifies Hésitation. C'est un genre de counter spell que tu peux mettre à l'avance, là. Gérard a hésité, regardant dans le ciel, en voyant un vaisseau ennemi. Le futur a hésité avec lui, changeant à jamais la pose. Vraiment bizarre la phrase. Mais dans le fond, c'est Gérard et Stark, ils trouvent que c'est une espèce de jardin et ils remarquent le vaisseau prédateur, qui, le vaisseau de Greven, là, qui vole au-dessus du Stronghold. Fait qu'ils savent que c'est probablement pas par là qu'ils veulent passer. Puis là, tu sais, t'as des cartes comme Volrat Garden qui sont très, très thématiques jardin. Hein. Et c'est là qu'ils vont rencontrer les fameux Spike, qui était une créature qui est apparue dans Stronghold. Les Spike, c'est des créatures qui ont des toughness power de 0-0. Et ils servent à mettre des counters dessus, comme Spike Feeder, un colorless 2 vert. Quand il rentre en jeu, tu mets 2 counters +1/+1 dessus. Tu enlèves un counter +1/+1 de ton Spike Feeder pour mettre un +1/+1 counter sur une créature. Ça, c'est très bon. Là. Il y a eu plein de combos pendant des années avec ça, notamment avec le dieu Helios dans Eliod. Dans Theros Beyond Death, là, en moderne, là, ils jouent ces deux cartes-là ensemble. Les Spike Feeder deviennent vraiment gros parce que chaque fois que tu gagnes de la vie, tu mets un counter +1/+1, puis lui, t'enlèves un counter +1/+1 pour gagner de la vie. Fait que ça fait un
peu. Ben oui, allô.
Fait que là, c'est ça. Dans ces jardins-là, ils doivent combattre des spikes. Éventuellement, Stark va tomber et il va faire Brush with Death. Hein. Il tombe dans une espèce de plante carnivore. 2 colorless, 1 noir. Ça, c'est tu draines 2 de vie à ton adversaire, mais ça le buy back 4. C'est vraiment pas bon comme carte. Mais on voit que Stark est comme tombé dans une espèce de truc à
cheminer.
Comment on dit ça, des lières là, qui essaient de l'attraper. Gérard va le sortir de là et tous les deux vont entreprendre d'escalader le mur extérieur du Strono parce qu'ils disent visiblement c'est pas ici que Cici est gardé. Fait que c'est la carte Shifting Wall là, qui est un mur 0-0 qui rentre avec X counter +1/+1 dessus. You almost think Volrat doesn't want me here, dit Gérard en montant le long du mur à la recherche là, d'un nouvel endroit pour rentrer dans la forteresse.
Phrase de catchphrase en esti.
By the way, Stronghold a une sous-thématique de Wall. Tu pouvais pas drafter des decks de Wall, mais il y a plusieurs Wall dans le set. Il essayait de ramener ça à la mode là, avec plus ou moins de succès. Pendant ce temps-là, c'est. Miri puis Krovax, ils vont découvrir où était gardé Tangart. Ce qu'ils vont découvrir, c'est que Tangart a beaucoup changé parce qu'on se rappelle, il avait été torturé par Volrat. Donc, il y a plusieurs cartes où on voit la nouvelle apparence de Tangart, le Minotaur. Tu vois Torment où il se regarde dans le miroir et il aime vraiment pas ce qu'il voit. Ça le baisse de -3 dans son power. Volrat has killed me. All that remains of me is a scar. Volrat m'a tué, il reste juste moi des cicatrices. Ou Seating Anger, ça rend Volrat vraiment en crise. Ça, c'est le +3/+0 avec Buyback 3. Dans le fond, là, Tangart a cette espèce d'apparence à Star, genre, tu sais, c'est comme si on veut comme enlever sa peau. Là.
Il est bleuté.
Ouais, il est bleuté, il est comme changé, mais il va pas comme. Tu sais, ils vont le délivrer, il va pas être contre le Weatherlight. Il va plus être comme. Bougé par la rage puis il veut se venger.
Mais il n'a pas été completed, c'est comme weird.
Non, il n'y avait pas le concept du completed encore tout à fait à l'époque. Okay. Mais on va voir, il va se passer de quoi du fait que dans des futurs sets, là, il va arriver de quoi par rapport au fait que Tangart a été changé par les Phyrexiens. Ce qu'ils vont découvrir aussi, c'est que où était gardé Tangart, il y avait Cissé. Mais c'était un shapeshifter. Hein. Je vous avais parlé dans l'épisode, il y avait beaucoup de shapeshifters. C'est Volrat Shapeshifter à gauche qui est après l'apparence de la carte qui est dans le graveyard, qui est une créature. Ce qu'on voit en fait, c'est le dessin, c'est Cissé, mais comme en genre un peu à The Thing. Là, on voit qu'elle est comme tout en train de changer de forme. Fait qu'ils vont sauter dans le storyline, c'est qu'ils sauvent Cissé, là, Cissé est avec eux, mais là, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est un shapeshifter. Fait que Amok, ça, c'est Krovax, là, qui donne des gros coups de poing puis qui va détruire le shapeshifter de Cissé. Krovax rage was horrifying. Within moment, only blood and shred of flesh remain of the shapeshifter.
Seigneur.
Ouais. Fait que là, ce qu'ils veulent nous montrer, en fait, c'est que les shapeshifters peuvent prendre l'apparence. Tu sais, c'est les bons vieux Sleeper Agent, là. Mm-hmm. Ils peuvent prendre l'apparence de qui on veut. Pendant ce temps-là, puis je pense qu'on va closer l'épisode là-dessus avant de sauter pour la semaine prochaine, on continuera.
On reconnaît, lui.
Ouais, Karn, lui, s'était sauvé. On s'appelle Karn aussi, était prisonnier dans le Strongo. Lui, il va réussir à se sauver avant que les héros se rendent à lui. Et il part comme en espèce d'exploration à travers la forteresse. Fait que là, t'as plusieurs cartes là, de Karn qui se promènent dans des couloirs, puis il a l'air un peu niaiseux. Fait que la carte Change of Heart pour un blanc, Boy Back 3, une créature peut pas attaquer ce tour-ci, hein, parce qu'on rappelle, Karn n'attaque jamais. Hein, il a fait, c'est un pacifiste. Mais il y a un changement de cœur lorsqu'il rencontre. Jonathan, reconnais-tu la créature qui est sur ce beau dessin de Ron Spencer?
Ben oui, c'est une merveilleuse carte qui coûte cher si tu décides de construire un deck Commander avec, Sliver Queen de Ron Spencer.
Ouais, c'est la Sliver Queen. C'est qu'en se promenant dans le Stronghold, Karn découvre les Slivers, dans le fond. Hein? Mm. Et notamment le Sliver Queen, qui est le plus fort de tous les Slivers. Hein? 7-7 pour les 5 manas de couleur. Tu peux payer 2 pour mettre un Sliver token en jeu qui, dans le fond, a toutes les habilités de tous tes Slivers.
Hey, ça va vite, hein?
Ouais. Fun fact, cette carte-là a longtemps été jouée, pas juste dans des decks de Sliver, ça a longtemps été, puis quand je dis longtemps, c'est pendant 5-6 ans, là, un fameux deck de contrôle en Legacy, que son seul finisher, c'est qu'à un moment donné, une fois que tu as pris le contrôle du board, tu sors Sliver Queen, puis tu attaques avec. C'est simplement la raison pourquoi il a joué, c'est que c'était un 7-7, puis c'était comme un genre de running gag, là. Mais ça a longtemps vu du pro playing. Fait que Karn, il va comme négocier avec le Sliver Queen, il va essayer de les comprendre. Et le fait que c'est une espèce de géant pacifiste, là, les Slivers vont pas comme l'attaquer. Et il va découvrir que Vol'rath a enterré les fameux Legacy de Gerard, les morceaux d'artefacts, sont enterrés dans la tanière de la Sliver Queen. Ça, c'est la carte Sift, tout ce qui fouille dans le sol. Tu piges 3 cartes, t'en discartes une. Par 2 fois, j'ai laissé le Legacy s'en aller. Jamais plus, dit Karn, qui va devenir, il va faire comme ça. Tu sais, au lieu d'être comme, moi, je suis tout le temps pacifiste, là, il voit qu'est-ce que ça l'a amené. Fait qu'à cette heure, il va comme changer son espèce de vœu, là. Son espèce d'obligation, ça va être maintenant, je vais tout le temps défendre le Legacy de Urza contre ceux qui veulent l'attraper. Puis ça va être un peu devenir la nouvelle thématique de Karn, le fait qu'il va tout le temps se trimballer avec ces artefacts-là. Et le fait qu'il va tout le temps se trimballer avec ces artefacts-là, maintenant, il va y avoir un accident. Je ne vais pas trop vous vendre de punch. Voilà. Mais le fait qu'il se trimballe tout le temps avec ces artefacts-là, ça va avoir une conséquence sur qu'est-ce qu'il va devenir.
C'est pour ça qu'il s'est mis à mettre des pantalons?
Non, c'est pas les pantalons. donc... semaine prochaine, je vais le laisser sur la finale. Krovax puis Miri, pendant qu'ils se sauvent avec Tangart, ils vont rencontrer, ça c'est la carte Provoke, où ce qu'on voit qu'ils se font, sont en train de marcher sur les mêmes ponts que le Bottomless Pit. Là. Ça c'est on tape une créature, puis elle doit bloquer absolument, puis tu piges une carte. On voit qu'il y a une espèce d'ange avec un sabre qui les attaque sur le pont. Si vous vous rappelez, c'est dans Tempest, il y avait Selenia Dark Angel, qui était l'ange protecteur, j'en avais parlé là, dans le premier épisode sur Tempest, l'ange protecteur de Krovax, qui était tout le temps capable de summoner. Krovax va la summoner dans le Stronghold pour les aider à se battre, et ils vont se rendre compte qu'en réalité, Selenia Dark Angel travaillait pour les Phyrexiens. C'est un bon vieux
Super Agent.
C'est pour ça que les blancs et noirs
n'étaient pas gentils.
I am light, I am dark, I must give my life to serve. Not even death can release me. Fait qu'elle va attaquer directement Krovax, Miri et Tangart. Et c'est là que je fais un petit segue. Si vous vous rappelez mon épisode sur le plan de Serra, hein, qui se passait dans Urza Saga, il y avait un petit flavor text vraiment obscur sur la carte Persecute. On se rappelle que les Phyrexiens avaient infesté le plan des anges de Serra. Et il donnait comme exemple qu'un ange de Serra qui s'appelait Selenia avait été perdu aux Phyrexiens, disait Radiant Archangel. Fait qu'en fait, c'est une des conséquences de ça, c'est que l'ange Selenia, les Phyrexiens, ils prévoient tout de l'avance. C'est pour ça qu'ils sont attachés à Krovax, pour qu'au bon moment, ils peuvent s'en servir et qu'elle les trahit. Fait que ça fait la Deathstroke. Krovax va tasser les autres. Hein. J'adore le artwork de cette carte-là. C'est là, tu détruis une créature tapée pour 2 noirs. C'est une des premières cartes, by the way, qui fait ce genre d'effet-là, là, de détruire une créature tapée. On voit Krovax là, qui stagne, il sort son épée et il tue Selenia, l'ange. For a sharp, pendant une seconde, Selenia a... arrêter de bouger.
C'est brisé comme la glace.
Hein. Ah, ouais, bon, ouais. Et la lame de Krovax a trouvé ou frappé. L'ange a brisé comme de la vitre et Krovax a senti son esprit vraiment là, comme viré à l'envers à cause de ça. Sa damnation venait d'être complétée. En fait, c'est le vrai génie des Phyrexiens. Leur plan, là, tu dis, c'est que l'ange Selenia va trahir l'équipage de Weatherlight, right? Tu dis que c'est ça le plan, hein?
Mais c'est pas ça. C'est que si Krovax tue, ça va.
Le plan, c'est qu'il faut que Krovax tue l'ange qui était son protecteur depuis tant d'années parce qu'il va devenir Krovax the Curse.
Évidemment.
Deux colorless, deux noirs, Summon Legend, un vampire. Il rentre en jeu avec 4 counters +1/+1. À ton upkeep, tu peux sacrifier une créature pour mettre un counter +1/+1 dessus. On voit la thématique symbiote vampire. Hein? Et il peut payer un noir pour lui donner Flying into the end of turn. Donc, Krovax devient un vampire au service des Phyrexiens, mais il est aussi capable de garder sa forme de d'humain normal. Il va servir de ça notamment pour trahir le Weatherlight. Et éventuellement, là, je veux pas trop vendre de punch, là, mais on va se rendre compte que la destinée de Krovax est pas mal plus grosse que ce qu'on pense. Il va devenir éventuellement un des principaux boss de la fin de l'histoire.
Il va devenir Krovax.
À ce moment-là.
Il y en a pas que je comprends pas, par exemple, dans le Power, c'est pourquoi enlever un compteur plus un plus un?
C'est que Krovax, si tu sacrifies pas une créature, tu enlèves un +1/+1.
Ah oui, ok, je comprends.
Oui, donnes à manger. Faut que je l'ai mal expliqué. C'est que tu donnes à manger tous les tours.
Tu mets un +1/+1 comme tu.
Je comprends.
Si t'en sacrifies pas.
Ou t'enlèves un.
T'enlèves un +1/+1.
Tout le temps que tu donnes à manger.
C'est bon. Voilà. All good.
Mais j'ai eu la même méditation que toi.
Parfait. C'était la virgule or.
Ouais, c'est ça. Puis la façon que Jason l'avait lu.
Fantastique. Fait que là, si je comprends bien, on va continuer Stronghold la semaine prochaine.
Mais là, on va voir dans le fond où est-ce que Gérard, qui est en train d'escalader le mur, où c'est que ça s'en va.
Okay.
Puis, qu'est-ce qui va se passer avec maintenant que Krovax est au service des Phyrexiens? Puis, est-ce qu'ils vont réussir à trouver Cissé? Puis, Volrath est assis sur son trône, puis il se dit ah ah ah, mon plan marche. Ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien.
Clairement, mais est-ce que ça va autant pas bien que dans Dominaria United?
On va le voir la semaine prochaine.
C'est bon. Yo! Ben, merci tout le monde. Merci à Emmanuel. Merci à Jonathan. Merci à Jason, évidemment. On est terrain basique. J'aimerais remercier aussi l'adversaire.
4303 Sainte-Catherine-Est.
Merci à Bone. Merci à Tommy d'être parti parce qu'on va en avoir pour une autre deux semaines à être sans lui.
Enfin.
Et j'aimerais remercier aussi Martin Godette de Production Podcast parce que c'est lui qui fait le montage. Donc, sa job est extrêmement importante pour nous autres. Mon nom est Andy Jacques en remplacement de Tommy Godette. Il n'y a plus de catchphrase dans le
montage.
C'est fini. C'est terminé.
Checkez vos chapeaux.
Membre de la famille H2O Web Media.